À Rencontre Spirituelle aujourd'hui, sa question d'un Dominicain extraordinaire, vraiment, je vous assure, le père Jean-Joseph Lataste, qui est mort en 1869 et qui a eu l'idée absolument étrange de fonder des Dominicaines, comme on appelle les Dominicaines de Béthanie, mais à partir des femmes qui ont fait de la prison en grande partie. Vous avez peut-être déjà vu un film qui s'appelle « Les anges du péché », un film de Bresson, le fameux Bresson. Et il avait justement dans ce film traité de cette question extraordinaire, c'est un drame qui date de longtemps, ça date de la guerre, c'est 1943. Et c'est pas tellement long, une heure et demie à peu près. Et c'est un drame spirituel, donc réalisé par Robert Bresson. Il y avait là des comédiennes que vous connaissez, les gens plus âgés, René Faure, Jenny Holt, l'histoire, en somme, c'est l'histoire d'une religieuse au couvent de Béthanie, justement, des Dominicaines, donc une Dominicaine qui est dans ce couvent de Béthanie, qui est un véritable refuge pour des... femme perdue ou criminelle. Alors, cette religieuse, Anne-Marie, sœur Anne-Marie, tente de convertir à la bonne cause là, une jeune condamnée qui s'appelle Thérèse. Et cette Thérèse, quand elle est libérée, elle tue le responsable de son incarcération, de sa condamnation. Alors, elle est rejetée en prison, puis elle vient à nouveau chercher, avant ça, asile au couvent. Et sœur Anne-Marie s'acharne en vain à sa conversion. Et puis, elle est chassée du couvent à la suite d'une crise intérieure. Et cette jeune religieuse y revient pour mourir, finalement. Elle offre sa vie pour sauver Thérèse. Et celle-ci va comprendre, enfin, puis elle va se soumettre à la justice humaine. C'est là qu'elle sera condamnée. Et au-delà des événements de ce drame, qui est un drame intérieur, le drame de la conversion à la foi que Bresson nous amène ici, d'une façon très, très intelligente, à mon avis, il nous fait comprendre, connaître de façon profonde la conversion difficile d'une femme en très grande difficulté. Et le surnaturel est très bien analysé. Il y a le décor est dépouillé, les jeux d'ombre et de lumière, comme dit un critique, sont excellents. Puis les acteurs aussi, je me souviens, sont très très bons. Ça nous transporte dans le monde étrange où se joue le sort de d'âmes en très grande difficulté, hein? Les anges du péché. Eh bien. Ces Dominicaines ont été fondées par le père Lataste, qui a voulu apporter une solution, si on peut dire, à cet amour miséricordieux en plein milieu du 19e siècle. C'était absolument révolutionnaire. Ce Dominicain était un grand révolutionnaire, tout jeune. Il est mort tout jeune. C'était un intellectuel du cœur, si on peut dire. Des intellectuels du cœur, c'est rare. C'est même très, très rare. Trop rare. Hein? C'est le cœur qui compte. Une étude qu'il avait faite pas à pas et très passionnée de l'Évangile avait amené ce jeune moine dominicain très rapidement à s'effacer devant les plus petits. Il avait saisi vraiment qui était Jésus et il en vivait. Le père Lataste, aujourd'hui on dirait le frère Lataste. Vous savez que les Dominicains, on les appelle frères aujourd'hui, depuis quelques années, puisqu'ils sont frères prêcheurs. Alors, donc le frère Lataste est toujours ouvert aux désespérances humaines. C'est ce qui l'attire le plus. C'est vraiment, en somme, d'un certain aspect, un fidèle disciple de Saint-Dominique, hein? Saint-Dominique Guzman, Saint-Dominique de Caliruega, Saint-Dominique comme on l'appelle toujours. Et le frère Lataste a su lui aussi prêcher en peu de temps très peu de temps par sa grandeur d'âme. Cette parole que je mettrai avec un P majuscule, qui est le Christ, et qui redonne la grâce perdue, et qui, le Christ, réhabilite en profondeur les femmes oubliées des prisons. Sans compter, comme un apôtre digne de ce nom, il n'a jamais compté, il a semé, on peut dire, la miséricorde partout. Il n'arrêtait pas. C'est d'ailleurs très humblement qu'il avait demandé son entrée chez les frères prêcheurs, les dominicains. Il était d'une nature sensible, c'est ce qu'on dit de lui à l'époque. Puis il a ressenti douloureusement toute sa vie les traces de la souffrance chez les autres. Puis il avait dans son cœur un amour dévorant. Le frère Lataste demeure cet audacieux prêcheur, cet audacieux dominicain, qui a dépassé peut-être les bornes du raisonnable, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qui a essayé de forcer les bien-pensants de l'Évangile à accepter l'extravagance, la miséricorde que l'on trouve dans l'Évangile. Oui, pour aimer ceux qui remplissent nos prisons, pour les aimer, je salue le père Jean de Bordeaux, qui est tellement extraordinaire dans son amour des prisonniers. Parce que les prisonniers, quand ils sortent, qu'est-ce qui leur arrive? Ou les prisonnières demeurent des exclus, des méprisés, des non-voulus. C'est terrible. Lui a voulu fonder quelque chose, un groupe de femmes, de religieuses, qui s'occupent d'elles. Il s'appelait Vital Alcide Lataste. Il est né à Cadillac, en Gironde, Cadillac-sur-Garonde, au bord de ce long fleuve, la Garonne, non loin de Bordeaux, le 5 septembre 1832. Sa famille était réputée comme négociant de vin. Alors il a dû goûter le bon vin quand il était jeune. Pardon. Ce jeune Lataste est très tôt sensibilisé aux grandes valeurs de l'Évangile. Comment ça se fait qu'il a connu l'Évangile si jeune? Il est né en 1832, donc vers 1840, il connaît l'Évangile. C'est tout simplement grâce à sa mère. Il avait une vraie mère, Jeanne Gracier. C'est très important. Nos mères, je me demande jusqu'à quel point elles initient nos enfants aujourd'hui à l'Évangile. À la fin de ses études secondaires, il a de la difficulté à se décider pour savoir ce qu'il va faire. Il se sent incertain. Il ne sait pas comment orienter son avenir. Il ne sait pas s'il y a une vocation. Il décide de toute façon de se présenter au concours d'entrée de l'administration des contributions directes à Poitiers. Il est devenu, si on veut, percepteur d'impôts, disons. Comme quelqu'un que vous connaissez bien, Saint Matthieu, Matthieu Lévy, l'auteur du premier évangile, en l'an 42, dit-on. Est-ce qu'il l'a vraiment composé à ce moment-là? Les discussions sont pas closes, mais il semble bien que c'était composé une douzaine d'années après la mort de Jésus. Matthieu, je vous en parle deux secondes, cet auteur du premier évangile, comme je viens de vous le dire, du moins dans une première rédaction du texte, dont on dispose maintenant, habitait la ville de Capharnaüm où est né le christianisme, où est née notre Église catholique. Les évangélistes nous ont présenté ce personnage, on a relaté sa conversion. Matthieu, appelé aussi Lévi, c'était un publicain, c'est-à-dire qu'il collectait les impôts pour l'occupant romain. C'est pas une très belle job, Il s'arrangeait, évidemment, pour y trouver son compte, d'ailleurs. Et ses fonctionnaires, collaborateurs avec les Romains, il était considéré comme des pécheurs publics et très mal vu par les Juifs. Peuple soumis, peuple conquis, peuple sans liberté. Et naturellement, ils étaient considérés aussi par le reste de la population juive Comme le montre d'ailleurs la réaction puis l'attitude dédaigneuse des scribes et des pharisiens, qu'on trouve dans le texte évangélique. Hein. « Votre maître, disent-ils aux apôtres, mange avec les publicains et les pécheurs. » Quelle horreur, hein? Alors, sa conversion à Matthieu émerveille par sa spontanéité et son caractère absolu. C'est beau, cette conversion. Hein? Jésus passe devant le bureau de Lévi, Matthieu, il lui dit, tout simplement, « Suis-moi ». L'homme alors se lève, quittant tout, et il le suit. C'est absolument phénoménal quand on lit ça. Hein? Qu'est-ce qu'on fait de ce « suis-moi » qui nous est adressé à nous aussi? Hein? On peut se demander. Alors, après un stage dans les bureaux de Bordeaux en 1852, à 20 ans, le jeune Lataste est envoyé à Privas. C'est dans l'Ardèche, disons, 600 kilomètres de Paris. C'est une petite ville. 5000 habitants à l'époque, peut-être. Même pas. Puis à Nérac, aussi, dans le Lot-et-Garonne. C'est encore une petite ville. Et durant ses années de vie professionnelle, donc, le jeune Alcide Lataste est particulièrement attentif aux plus démunis de son entourage. Et puis, c'est pour ça qu'il fait partie de la conférence de Saint-Vincent de Paul, récemment fondée par Frédéric Ozanam, le bienheureux Frédéric Ozanam. Voilà un laïc qui a des béatifiés, père de famille. Il est un membre vraiment actif, avec une intelligence, dit-on, objective des situations de manque. Là. Il voit et il agit. Alors qu'il est à Privas, la première ville que je vous ai mentionnée, il bénéficie souvent de l'hospitalité d'une grande famille amie, ce sont les Saint-Germain des nobles. Et c'est là qu'il rencontre l'affection qui va le subjuguer. Il y a là une jeune fille qui lui plaît beaucoup, Léonide Cécile de Saint-Germain. Il trouve en elle toute la tendresse qu'il attendait, qu'il recherchait. Alors il s'attache fortement à elle. Il rêve d'en faire sans tarder sa femme, son épouse, sa compagne de vie. Mais elle meurt rapidement des suites d'une fièvre typhoïde, comme ça arrivait souvent à l'époque. Alors sa douleur vraiment explose, il a un cœur sensible. Puis qui ne pleurerait pas quand on est jeune et qu'on aime et qu'on perd sa fiancée? Il est terrifié, mais il garde confiance. Comme il dit à un ami, « Je suis malheureux, mais ma douleur est douce quand je songe à son bonheur. » C'est beau de sa part, il songe au bonheur de sa fiancée, qui est rendue au ciel. Il se met donc à errer, il réfléchit, il fait pas le tragique, non, il joue pas la comédie. Il réfléchit au sens de sa vie, il cherche, malgré cette blessure bien profonde, et qui pourrait, comme on dit dans un texte ancien, donner à son cœur un peu romantique un autre climat que celui de l'affection brisée. Mais sa grande douleur, cette grande douleur, va l'amener à reprendre la question qui s'était posée jadis d'une vocation religieuse. Donc, Alcide Lataste, qu'est-ce qui va lui arriver? Il a perdu sa fiancée qui est morte. Mais il ne s'agit pas pour lui d'un cas de chagrin d'amour dans sa recherche. Là. Il s'agit d'une réponse à donner à un appel vibrant de Dieu, reconnu dans le déchirement qu'il ressent, évidemment, puis dans l'espérance aussi. Il se souvient d'un contact qu'il a eu avec le prieur des Dominicains de Bordeaux. Alors, Alcide Lataste s'intéresse à la vie des frères prêcheurs qui viennent d'être rétablis en France par le père Lacordaire, le frère Lacordaire, on dirait aujourd'hui. Alors à Sorèze, dans le Tarn, il rencontre justement le père Lacordaire. Je vous ai déjà fait une émission sur cet homme extraordinaire. Et le père Lacordaire lui propose d'entrer au noviciat dominicain de Flavigny, en Côte d'Or. Il a 25 ans. Il arrive le 4 novembre 1857. 4 novembre 1857, il rentre. Le jour de sa prise d'habit, de très bel habit dominicain, il reçoit le nom de frère Jean-Joseph, d'où son nom Jean-Joseph Lataste. C'est en souvenir d'un saint dont je tiens à vous parler, qui est fêté le 5 mars, je ferai ça probablement l'an prochain, Saint Jean-Joseph de la Croix, un franciscain de Naples, dans le sud de l'Italie donc, qui répétait sans cesse que, écoutez bien ça, Dieu est un tendre père qui aime et secourt ses enfants. Les gens qui pensent qu'on vient de découvrir depuis Sainte Thérèse l'enfant Jésus que nous avons un père vraiment aimant et qui secourt ses enfants, ça a toujours couru dans l'Église depuis le tout début. Et l'ordination sacerdotale de Jean-Joseph Lataste a lieu à Marseille. Il a 30 ans, le 8 février 1863, et aussitôt après sa première messe, il est assigné au couvent de Bordeaux. Et c'est de là qu'il va partir un matin de septembre 1864. Il est tout jeune prêtre pour prêcher la retraite annuelle aux femmes détenues à la maison centrale de Cadillac, où il est né, sa ville natale. Il connaissait ça de l'extérieur, cette prison. Il sait ce qu'elle abrite, mais il sait pas qu'il est né pour cette heure-là. Dieu l'attend là. C'est là que Dieu l'attend. Ces femmes sont dans cette prison, imaginez, près de 400. Elles sont couvertes de vêtements grossiers, absolument épouvantables. C'était terrible à l'époque, hein? Pire qu'aujourd'hui. Elles ont la tête enveloppée d'un mouchoir étroitement serré autour des tempes, ce qui leur donne une espèce de physionomie très spéciale, plutôt repoussante, a écrit le père Lataste. Il le raconte d'ailleurs dans un sermon en faveur de l'œuvre qu'il appelle l'œuvre des réhabilités, au fascicule 407. Je vous cite ce passage. C'est que malgré moi, dit-il, écrit-il, je subissais l'influence des préjugés populaires. Le peuple, en effet, n'a pour elle que de l'horreur. On les appelle communément les voleuses. Bien que les 9/10, peut-être, n'aient jamais commis le vol le plus léger. Et vous savez ce que ce nom de voleuse inspire de répulsion. Ce qu'il éveille de mépris instinctif. Quoique aujourd'hui, il y a bien des gens en pleine télévision qui... Nous avouons qu'ils ont souvent volé quand ils étaient jeunes. J'entendais l'autre jour Jean-Louis Roux, qui a été quelques jours notre lieutenant-gouverneur, qui disait comme ça tout bonnement, oui, il avait volé beaucoup de livres quand il était étudiant dans des librairies. Incroyable. Je continue le texte du frère Lataste, du père Lataste. Il avait été réglé que pour ne nuire en rien au travail forcé auquel elles sont soumises et aux habitudes de la prison, les exercices de la retraite seraient pris sur le temps ordinaire de leur sommeil, imaginez. Mais ces exercices étaient absolument libres et c'était le seul point sur lequel on leur ait laissé l'usage de leur liberté. Alors il leur donne une retraite, elles sont libres de venir, mais ça va couper sur leur sommeil. Il ajoute, et cependant, tout était là. C'est incroyable, hein? Tout était là. Tout à part deux mauvaises jeunes obstinées, aussi quelques protestantes qui se tenaient à la porte sans oser entrer, mais toutefois le plus près possible des autres. Il en fut ainsi tous les jours. Et dès qu'il était fait allusion à leurs fautes passées, on les entendait pleurer. Il laissait échapper plus d'une fois quelques cris de honte ou de repentir. Et leur parlait-on, ajoute le père Lataste, de la grande miséricorde de Dieu, de son amour de prédilection pour les âmes sincèrement repentantes, pour les âmes qui veulent l'aimer comme Sainte Madeleine. Alors, vous les auriez vus relever doucement la tête, comme les fleurs après l'orage qui vient de les toucher. C'est toujours dans son sermon, c'est en faveur de l'œuvre des réhabilités. Lors de son premier sermon, il déclare, que m'êtes-vous après tout? C'est assez étrange, son premier sermon, il n'y a pas l'habitude. Que m'êtes-vous après tout? Hier, je ne vous connaissais pas, et dans quelques jours, nous nous séparerons, peut-être pour ne plus nous revoir ici-bas. Bien plus, vous êtes des femmes dégradées, avilies, mises au banc de la société, et d'où me vient que vous m'êtes si chère? Vous que le monde oublie et méprise. C'est que nous sommes ministres, il parle des prêtres. C'est que nous sommes ministres d'un Dieu qui vous poursuit de son amour sans cesse. Un Dieu qui vous poursuit de son amour sans cesse. Qui maintenant encore, à l'instant où je vous parle, se tient visiblement à la porte de votre cœur. Il se sert de mes paroles pour frapper à votre porte et vous dire tout bas, « Pauvre enfant, donne-moi ton cœur, reviens à moi et je reviendrai à toi. » L'année suivante, en 1865, il déclare, il écrit à un dominicain de Nancy, « J'ai vu de pauvres femmes passer de longues heures au pied de Jésus. En dépit des fatigues du jour et du poids des années déjà passées en ces lieux d'expiation et de peine, libres, elles ont librement choisi de passer leur nuit au pied des saints autels. 150 y ont passé leur veillée, et la moitié de la nuit venue, 150 leur ont succédé. Ah! Si vous ne vous en tenez, il dit, m'excuse, je trouve ça tellement extraordinaire. Ah! Si vous ne vous en étonnez pas, moi, je m'en étonne, écrit le père Lataste à ce dominicain de Nancy. Et quoi? Seigneur, vous n'y pensiez pas? Que venez-vous faire en ce lieu d'expiation et de souffrance, en ce lieu de pauvres et de malheureuses? Ce que je suis venu faire, les instruire, les consoler, les guérir. C'est une lettre qui est adressée au père Huet de Nancy, c'est une lettre du 2 décembre 1865. Alors, au terme de cette retraite, renouvelée d'ailleurs l'année suivante, la quasi-totalité des prisonnières, impressionnées par la conviction de ce prêcheur, de ce dominicain, demandent le pardon de Dieu. Alors, le père Lataste peut justement s'écrier, « Vraiment, vraiment, j'ai vu des merveilles, j'ai vu des merveilles. » Il sort bouleversé, parce qu'il a touché du doigt, dans une expérience décisive. Comment? À l'instar de Marie-Madeleine, dont je vous ai parlé au mois de septembre dernier, à l'instar de Sainte Marie-Madeleine, des femmes salies par la vie ont retrouvé le chemin de l'intimité de Dieu, l'intimité de Dieu. Condamnées, enfermées, elles viennent de recouvrer la vraie liberté, qui est celle du cœur. Et parce qu'elles ont beaucoup aimé, elles ont été beaucoup pardonnées. Et nous verrons tout à l'heure ce qui va se passer et comment le père Lataste va finir par prendre cette décision dont je vous ai parlé au début, de fonder une communauté avec certaines d'entre elles, les dominicaines de Béthanie, pour s'occuper justement des prisonnières et de leur réhabilitation et au besoin d'en amener à se faire aussi dominicaines comme elles. Devant toutes les merveilles qui s'accomplissent devant lui, les conversions, le père Lataste voit naître, donc, au fond de son cœur, une vision. Une vision qui ne va plus le quitter. Il voit une maison, la maison de Béthanie, ou si vous voulez, l'œuvre des réhabilités, E.S. Il ne s'agit pas d'ouvrir une maison de refuge, qui serait une reproduction exacte de tant d'autres qui existent déjà, pour celles qui sont sans logis à leur sortie de prison. Il s'agit d'offrir une famille basée sur le texte de l'Évangile où on voit Jésus se reposer au sein d'une famille où il y a Lazare, Marthe et Marie, où Marthe, celle qui n'a pas connu le déshonneur, aurait eu pour sœur, justement, Marie-Madeleine, la pécheresse aimée et pardonnée. Il y a des textes qui confondent cette Marie avec Madeleine. C'est possible que ce soit la même, il semble pas. Qui était plutôt contemplative, qui aimait s'asseoir au pied de Jésus et l'écouter, et qui l'aimait. Alors, comme ces femmes d'il y a 2000 ans, du temps de Jésus, on rivaliserait d'empressement au pied du Seigneur, au pied de Jésus. Hein. Il y aurait des anciennes prisonnières qui chercheraient à servir, d'autres davantage à l'écouter, qui seraient des dominicaines plutôt contemplatives. Ce que veut le père Lattasse, au fond, c'est finalement non pas seulement donner à ces femmes des possibilités de réintégration sociale, comme on en parle aujourd'hui continuellement. Il y a beaucoup d'émissions qui en parlent. Hier, il y en avait une très belle de 7h à 8h, où il était question de réintégration d'une femme de Shawinigan Sud, qui était bouleversante et qui a eu des expériences terribles. Mais il s'agit pour lui, le père Lattasse, d'ouvrir pour ces femmes-là une nouvelle voie d'accès à la vie religieuse. À la vie religieuse, c'est incroyable, hein, en tenant compte, évidemment, des possibilités de chacune. Alors, les unes, dans l'état religieux, moins pécheresses, peut-être, mais bien conscientes de leurs limites, serviront par leur délicatesse les autres en marche vers une réhabilitation totale, ce qui pourrait leur permettre un jour d'être aussi des religieuses. Et ainsi vient de prendre forme ce projet de la congrégation des Dominicaines de Béthanie, qu'on peut voir, je vous le rappelle, dans ce film « Les anges du péché » de Bresson. Grand cinéaste Bresson. Un tel projet paraît évidemment absolument rocambolesque, utopique, en plein 19e siècle. Parce que les supérieurs du père Lattasse, qui est dominicain, puis certains évêques aussi, se montrent d'abord évidemment sceptiques, qui ne le seraient pas. Parce que c'est extrêmement original. Mais pour le père Lattasse, c'est une entreprise d'une grande urgence. Et les supérieurs, les évêques, certains d'entre eux, du moins, regardent ça d'un regard bienveillant, mais ils se demandent. Et à peine le père Lattasse a-t-il proposé son idée qu'il est amené à quitter Bordeaux. On voit qu'on veut s'en débarrasser. Fin septembre 1865, ça se fait vite. Hein? Parce qu'on le nomme, lui, ce jeune dominicain, comme assistant du maître des novices à Flavigny, où il a fait son noviciat lui-même. Et c'est pas sans peine, le pauvre jeune moine, qu'il inaugure cette fonction de formation. Il a 33 ans. Il se sent inapte à la remplir correctement. Or, malgré l'éloignement de Cadillac où il est né, puis où était la prison, là, de femmes, son idée ne le quitte pas. Il multiplie de nouveau les démarches. Il combat les préjugés que son initiative hardie et généreuse bouscule. Et finalement, écoutez bien ça, avec les appuis du père Jean Del, qui n'est nul autre que le maître général des frères prêcheurs, des dominicains, le supérieur général, si vous voulez, le maître général, ben il peut tenter de concrétiser sa solution miséricordieuse. Ça vient de haut, cette autorisation. Alors, il reçoit l'apport financier d'une noble, Madame Foulon de Douai. Puis arrive aussi une religieuse dominicaine de la Présentation de Tours, sœur Henri-Dominique, qui vient du couvent de Nancy. Alors, grâce à ces deux femmes, la maison de Béthanie voit le jour, à Frasnes-le-Château, en Haute-Saône. Le 14 août 1866, c'est en Franche-Comté, dans l'Est de la France. C'est la veille de l'Assomption, le 14 août 1866. Imaginez, c'est extrêmement audacieux à cette époque, faire une chose pareille, c'est extrêmement audacieux. Et ce général, maître général des Dominicains, avait beaucoup de courage, et que dire du père Lattasse, hein? Alors, tout en suivant les premiers pas de ses sœurs, le père Lattasse continue sa prédication. Alors on le trouve ici et là, à Dijon, en octobre 1866, à Grenoble, dans le sud, presque au pied des Alpes, là, l'année suivante, en 1867, et sur la côte d'Azur, à Nîmes, presque en mars-avril 1868. Or, le 21 juillet de cette année-là, 1868, il rentre à Frasnes, le château, où est la maison de Bethany. Puis il est saisi par la fraîcheur de sa chambre. Alors qu'il est baigné de sueur, hein, vous savez ce que c'est quand on est en sueur, on a froid tout à coup. Il tombe malade. Et on n'a pas les moyens à cette époque comme aujourd'hui, hein. Il ne va plus se remettre. Et le mal ne cesse d'empirer chez ce bon père Lataste jusqu'au 10 mars 1869, c'est la date de sa mort. Jean-Joseph Lataste, un nom à retenir, n'a que 36 ans. Et à travers la bonté d'un visage d'homme comme ça, mais la miséricorde de Dieu s'est manifestée de façon toute spéciale, vraiment remarquable. On ne peut pas se plaindre qu'on manque de saints dans l'Église. C'est tellement rempli. Il y a une phrase du curé d'Ars que rapporte Kara Lubick dans son beau livre « Le Christ au cœur des siècles » dont je vous ai parlé quelquefois. Il y a une phrase du curé d'Ars qui montre combien la vision surnaturelle des choses, celle qui est vraie, c'est la seule vision qu'on devrait avoir, comme le père Lataste l'a eu, lui. Mais ça lui était, au curé d'Ars, presque une seconde nature, comme le père Lataste. Écoutez bien ce que dit le curé d'Ars. C'est très beau, ce texte. « Souvent, nous croyons soulager un pauvre, et il se trouve que c'est notre Seigneur. C'est lui aussi qui ôte le doute que certains peuvent éprouver quand ils sont dans la situation d'aider un inconnu. Il y en a qui disent « Oh, il en fait mauvais usage de ce qu'on lui donne. » Puis le curé d'Ars ajoute « Qu'il en fasse l'usage qu'il voudra. Le pauvre sera jugé sur cet usage qu'il aura fait de votre aumône. Et vous, vous serez jugé sur l'aumône elle-même que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas faite. » C'est troublant, cette parole du curé d'Ars. Tout ce qu'on ne fait pas, parce qu'on pense que ça sert à rien. Le fait est que les saints sont de grands experts de l'amour envers ceux qui souffrent, comme le père Lataste. Ce sont des géants qui ont édifié toutes sortes d'œuvres en leur faveur. Puis ce sont surtout des hommes au cœur de chair. On a dit, par exemple, de saint François d'Assise, peu après sa mort, il semblait avoir un cœur de mère. Oui, c'est authentique, ça. Les saints ont éprouvé dans leur chair la souffrance des pauvres et des indigents. On l'a vu chez le père Lataste. Ils ont aimé le Christ en eux, au point que le Christ n'a pas attendu la vie future pour se montrer à eux. On peut d'ailleurs lire à propos de Sainte Catherine de Sienne, c'est Raymond de Capoue, à son époque, qui a dit ça. Je vous le cite au complet, c'est très beau, c'est un beau texte. Il parle donc de Sainte Catherine de Sienne, dont je vais vous parler bientôt. Un jour, un pauvre lui demande, pour l'amour de Dieu, de l'aider dans ses nécessités. Comme Catherine n'a rien à lui donner, elle le prie d'attendre qu'elle soit rentrée à la maison. Cependant, le pauvre insiste. « Si tu as quelque chose à me donner, je te le demande ici, parce que je ne peux vraiment pas attendre. » Comme elle ne vient pas le renvoyer, comme elle ne veut pas plutôt le renvoyer les mains vides, elle ôte une petite croix d'argent qu'elle porte et elle lui en fait cadeau. Dès qu'il a reçu le cadeau, le pauvre s'en va content, sans demander l'aumône à d'autres. Au cours de la nuit suivante, alors que Catherine est en prière, le sauveur du monde lui apparaît, le Christ. Il porte dans sa main la petite croix, ornée de pierres très précieuses, et lui dit, « Ma fille, reconnais-tu cette croix ?» Et elle répond, « Je la reconnais bien, mais quand elle était mienne, elle n'était pas si belle. » Et le Seigneur lui dit, « Au jour du jugement, je te la présenterai telle qu'elle est maintenant, en présence des anges et des hommes. » Et Raymond de Capoue ajoute dans son beau texte, mais c'est des vieux, vieux textes, très anciens, ça. Un jour, un autre jour, le Seigneur lui apparaît sous l'apparence d'un jeune homme adminu. Catherine lui dit, « Attends un instant ici, ô très cher, que je revienne de cette chapelle, et je te donnerai tout de suite un vêtement. » Et là, elle retourne dans la chapelle, ôte avec prudence et modestie la tunique sans manches qu'elle porte sous la tunique extérieure, et la donne aux pauvres. Après l'avoir reçue, le pauvre demande encore, « Oh, madame, puisque vous m'avez pourvu d'un habit de laine, veuillez me pourvoir encore d'habits de lin. » Elle lui dit, « Suis-moi. » Entrez dans la maison paternelle. Vous savez que Sainte-Catherine de Sienne habitait chez ses parents dans le sous-sol. Hein? Elle s'était enfermée là et elle sortait de temps en temps. Elle lui dit, « Suis-moi. » Entrez dans la maison paternelle. Elle se rend dans la pièce où sont rangés les vêtements de lin de son père et de ses frères. Elle prend une chemise et des chaussures, et le visage heureux, elle les offre aux pauvres. Cependant, le pauvre revient à la charge. « Madame, que puis-je faire d'une tunique sans manches ?» Point du tout offensé, Catherine se met à chercher. Par hasard, elle aperçoit le vêtement de la servante de la maison. Alors vite, vite, elle en découle les manches et les donne aux pauvres. Et ce dernier ajoute alors, « Voici, madame, que vous m'avez vêtue. » Mais j'ai un ami qui lui aussi a bien besoin de vêtements. Mais cependant, Catherine se souvient que tous les gens de sa maison, à l'exception de son père, sont plus ou moins alarmés par les dons continuels qu'elle fait. Il ne lui reste donc plus que ce qu'elle porte. Alors elle se demande si elle doit ou non donner aux pauvres le seul vêtement qui lui reste, et la charité lui suggère de le faire, tandis que l'honnêteté virginale, c'est une vierge, le lui interdit, hein, elle peut pas se déshabiller, se mettre nue. C'est pourquoi elle dit aux pauvres, « S'il m'était licite de rester sans tunique, je te donnerais volontiers celle-ci, mais cela ne m'est pas permis. » Alors le jeune homme répond, « Je sais bien que tu me donnerais bien volontiers tout ce qu'il te serait possible. Alors adieu. » Et la nuit suivante, alors que Catherine prie, le sauveur du monde lui apparaît sous l'apparence de ce pauvre. Il tient à la main la tunique qu'elle lui a donnée, mais ornée maintenant de perles et de pierres précieuses, et lui dit, « Connais-tu cette tunique ?» Ô ma fille bien-aimée, après avoir répondu oui, mais qu'elle ne lui a pas donné aussi précieuse, le Seigneur ajoute, hier tu m'as vêtu, je te donnerai maintenant de mon corps sacré un vêtement invisible aux hommes, mais dont toi tu ressentiras la présence, et par lequel ton âme et ton corps seront protégés de tout froid dangereux, jusqu'à ce que, en son temps, il soit revêtu de gloire et d'honneur devant les saints et les anges. Et à l'instant de la blessure de son côté, ses mains très saintes tirent un vêtement de couleur sang. Le Christ le lui met et ajoute, « Je te donne ce vêtement avec toutes ses vertus, alors que tu es sur la terre, en signe de gage du vêtement de gloire dont en son temps tu seras revêtu au ciel. » Puis la vision disparaît. Catherine, dès cet instant, ne se couvre jamais davantage en hiver qu'en été. On peut se dire que ces malheureuses prisonnières qui ont revêtu ainsi le beau costume des dominicaines ont ici été revêtues en même temps du Christ et de tout son amour et de sa gloire. On peut penser dans des moments comme ceux auxquels nous sommes arrivés, là, dans cette démarche autour du Père Lataste et de ces prisonnières qui deviennent des dominicaines, les dominicaines de Béthanie. On peut penser à saint Vincent de Paul, dont le charisme de la charité envers les pauvres et tous les plus pauvres, les indigents, continue toujours à briller à travers les siècles. Saint Vincent de Paul, c'est le signe de la grande charité de l'Église catholique. Et saint Vincent de Paul en vient à dire, quand il explique la règle, car il a fondé les lazaristes et les sœurs de Saint-Vincent de Paul, les filles de la charité. Quand il explique la règle, en particulier aux premières filles de la charité, il leur dit, « Mes filles, sachez que quand vous quittez l'oraison et la sainte messe pour le service des pauvres, vous n'y perdez rien, puisque c'est aller à Dieu que servir les pauvres, et vous devez regarder Dieu en leur personne. Ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. On pourrait continuer comme ça bien longtemps. Mais on peut écouter maintenant un autre grand saint des pauvres, qui s'est fait la pauvreté même par amour du Christ, évidemment, nous le connaissons bien, il s'agit de saint François d'Assise, hein, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. Il avait un sens profond de la fraternité universelle, on le sait, saint François d'Assise. C'est pas pour rien que l'on dit de lui que c'est le saint qui ressemble le plus au Christ. Il ne pouvait concevoir, lui, un monde d'inégalité sociale, où certains ont davantage et d'autres moins. Le pape y revient souvent quand il s'attaque au libéralisme économique dans lequel nous vivons, qui est une horreur. Or, un jour que saint François d'Assise se promène, raconte un très vieux texte, il se promène à cheval, oui, saint François d'Assise se promenait à cheval des fois, dans la plaine qui s'étend auprès d'Assise, il trouve un lépreux sur son chemin. À cette rencontre, il éprouve d'horreur, une commotion intense. Mais il se remet en face de sa résolution, qui est de devenir un soldat du Christ. Alors il saute de cheval pour embrasser le malheureux. Celui-ci, qui tend la main pour une aumône, reçoit avec l'argent un baiser. Mais François se remet en selle. Mais il a beau ensuite regarder de tous côtés, et cependant, il n'y a pas d'accident de terrain dans cette région-là qui pourrait l'empêcher de voir. Puis il ne voit plus le lépreux, alors plein d'admiration et de joie, il se remet à chanter la louange du Seigneur. C'était une vision du Christ. François non seulement donnait de grand cœur au premier venu des aumônes qu'il a reçues, quitte à se passer même du nécessaire, mais il appelle cela faire une restitution, comme s'ils en avaient été les propriétaires, car les pauvres, au fond, c'est eux les vrais propriétaires de ce que nous possédons. C'est à eux qu'on doit remettre ce que Dieu nous a confié. Le vieux texte raconte de saint François d'Assise, ainsi il rencontre un pauvre. Lui-même, à cause de sa maladie, porte en plus de l'habit un petit manteau. Il voit la misère du pauvre et il ne peut plus y tenir. Il faut, dit-il à son compagnon, que nous rendions à ce pauvre son manteau, car il lui appartient. Voyez-vous ce que je viens de vous dire? On nous l'a prêté jusqu'à la rencontre d'un plus pauvre que nous. Savez-vous que l'abbé Maurice Zundel, prêtre du 20e siècle en Suisse, on vous parle souvent de Maurice Zundel à Radio Ville-Marie. Les éditions Anne Sigier, à Québec, ont publié plusieurs de ses livres qui se sont répandus dans le monde. Eh bien, quand il rentrait chez lui, sa ménagère souvent le voyait arriver sans manteau. Il avait encore donné son manteau, lui qui n'en avait pas d'autre. Et la ménagère devait réussir à trouver un autre manteau pour l'abbé Maurice Zundel. Le compagnon de saint François, devant le geste que saint François s'apprête à poser, sait ce qu'exige l'État du Père qui s'oppose obstinément à ce qu'il secourt autrui à ses dépens, parce qu'il sait que son Père Saint-François n'est pas en parfaite santé. Mais lui, il dit, « Ma conviction est que le grand aumônier me reprocherait comme un vol de ne pas donner ce que je porte. » Le grand aumônier, c'est Jésus qui a la main toujours tendue, prête à donner tout ce qu'il a, son cœur. Alors le grand aumônier me reprocherait comme un vol de ne pas donner ce que je porte à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. D'ailleurs, lorsqu'on lui offre quelque chose pour sa santé, il demande habituellement au donateur la permission d'en faire cadeau à son tour s'il rencontre plus indigent que lui. Tout y passe. Saint-François donne ses manteaux, ses tuniques, ses livres, les nappes d'hôtel, les tapis, tant qu'il y a une aumône à faire aux pauvres. Exagère, hein? Mais c'est magnifique. C'est presque inimitable. Il y a des gens qui l'imitent. Il y en a qui vont jusque-là, qui donnent tout. Et ne croyez-vous pas, finalement, que si le Christ pénétrait vraiment dans nos vies, dans notre petite vie, à chacun d'entre nous, au lieu de nous traîner dans une demi-somnolence, ce serait chaque jour une nouvelle résurrection avec et par lui. Vous devez être, vous, chrétiens, le sel de la terre, la lumière du monde, c'est ce qui nous est dit. Or, c'est à nous de mettre le levain du christianisme dans la pâte humaine, spécialement dans le milieu providentiel où Dieu nous a placés comme le père Lataste l'a fait dans les prisons des femmes, dans cette prison de Cadillac, son village natal. Il faut pour cela oser nous poser les questions qui réveillent, les questions qui font choc, pour voir comment la religion du Christ pourra être mise dans toute la vie humaine, ou bien arriver à un jour que, à travers tous les événements de l'histoire, se réalise le grand dessein d'amour de Dieu sur l'humanité. Est-ce qu'on va l'accomplir un bon jour, hein? Faire vivre à tous les hommes une vie plus filiale, à toutes les femmes une vie plus fraternelle, conduire l'humanité vers son achèvement dans le Christ par l'Église. Il va bien falloir y arriver. Ça se fait. Ça se fait toujours. On n'en parle pas suffisamment. Et voilà que je vous ai parlé du Père Lataste au siècle dernier. Et demain, je ferai une émission spéciale. Pourquoi demander à Dieu quelque chose s'il sait tout, hein? Bien des gens se posent cette question. Je vais vous parler aussi jeudi du Père Luigi Orione, un prêtre, un apôtre de tous les délaissés encore. Voilà un autre. Et vendredi, du comte Charles de Montalembert, cet homme politique français qui est mort il y a plus d'un siècle.